Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. Le braconnier et le goupillon. La chasse est ouverte. La campagne résonne de petits coups de tonnerre, les fanfares et les voix des meutes sonnent dans les sous-bois. Évoquons aujourd'hui deux manières de chasser, l'une clandestine, l'autre bénite. La chasse a failli ne plus avoir la cote, sauf dans les livres. En 1771 paraissaient « Les ruses du braconnage », mises à découvert par L. Labourière, garde de Monseigneur le comte de Clermont. Un chapitre y est consacré au furet, que le dit Labruyère appréciait particulièrement. Ce n'est pas que ceux qui mordent soient mauvais, mais ils ne sont pas commodes pour le braconnier. L'auteur décrit avec un luxe de détails l'animal et la manière de chasser le lapin avec lui. Il conseille aussi aux gardes de se méfier à la fois des furets et des fureteurs. Cet ancien soldat, né en 1723, savait de quoi il parlait. Avant de devenir garde lui-même, il avait longtemps pratiqué le braconnage. Il fut pris deux fois. Sa première condamnation lui valut 45 mois d'emprisonnement à Bicêtre. Il en évita une seconde, en consentant à livrer ses secrets. Monsieur de Louvigny, capitaine des chasses du comte de Clermont, petit-fils du grand Condé, pensa qu'il avait sûrement un bon enseignement à tirer du personnage. Il dressa un questionnaire en 18 points qui devait permettre au braconnier de livrer ses ruses. Ce sont les réponses qui constituent le corps du livre. Mais ce questionnaire ne figure pas dans l'édition originale de 1771. Un bibliophile, Jérôme Pichon, en découvrit au XIXe siècle une copie du manuscrit complétée par les mémoires, également inédites de Labruyère. L'histoire d'un braconnier vit ainsi le jour, c'est Techner, en 1844, imprimé à 124 exemplaires. Labruyère, qui savait lire et écrire, il connaissait Télémaque et Robinson Crusoe, aurait pu faire une belle carrière dans l'armée, mais l'amour de la chasse était le plus fort. Si j'avais un conseil à donner, mes sentiments seraient qu'un braconnier qui serait en état de servir Sa Majesté fût mis au service ou envoyé aux îles. Au moins, il serait de quelque utilité, au lieu que dans Bicêtre, il perd son corps et son âme. Son âme ? Elle était protégée grâce à un chanoine qui l'avait chargé, lui, le prince des braconniers, de lui acheter un furet lorsqu'il errait à Paris. Quel dialogue aurait-il tenu s'il avait croisé ce doyen de la cathédrale de La Valette et le prieur conventuel de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, autrement dit de Malte? Ces dignes ecclésiastiques aimaient la chasse, avec fureur, disait-on, au détriment de la population. Le grand maître de l'ordre leur interdit ce plaisir, ce qui les mécontenta et provoqua une révolte vite réprimé. Le débat ne date pas d'aujourd'hui. L'état de la prêtrise autorise-t-il la chasse? Déjà, le concile d'Épône, en 517, non seulement défendit la chasse et l'emploi des chiens et des oiseaux de proie, mais il prit soin d'édicter les peines applicables à ceux qui transgresseraient ces inhibitions. Il était déjà interdit aux clercs d'être farceurs, goliards ou bouffons, leur supprimer la chasse revenait à les choquer. Quand on sait que Saint-Louis fut un grand chasseur, c'est sous son règne que parut le premier ouvrage sur la vénerie, le dit de la chasse aux cerfs. La loi canonique, c'est entendu, descend d'une façon absolue de chasser le dimanche. Aux laïcs, bien sûr, à plus forte raison pour les hommes d'église. L'histoire a laissé pourtant le souvenir d'une pléthore de prélats chasseurs, et les meilleurs chasseurs-conteurs y firent constamment allusion. Songeons à Monseigneur de Foudras, évêque de Poitiers, inventeur des chiens du Poitou, et oncle du fameux marquis du même nom, auteur de nombreux ouvrages sur la chasse, au curé de Chapez et encore à l'abbé Taillot. Et le cardinal de Rohan avait des équipages d'une grande beauté. Henri Gourdon de Genouillac, qui tenait dans le Figaro la rubrique très lue de la vie en plein air, se pencha sur le sujet épiné de l'église et la chasse. Cette étude parut d'abord dans la Gazette des chasseurs, puis ses jumeaux, la librairie des bibliophiles en 1886. Il en a été tiré des exemplaires sur Hollande. Curé, chanoine, évêque et pape, roi de France, gentilhomme et autres chasseurs invétérés, peuplent ces chapitres, tout à la fois savants et savoureux, disent Jérôme et Valentine Del Moral, qui ont inséré ce texte dans leur anthologie consacrée à la campagne et à la chasse. Doit-on souligner que le pape Léon XIII chassait au Roccolo dans les jardins du Vatican et qu'il pratiquait cette chasse avec ardeur alors qu'il était archevêque de Pérouse. Précisons au passage que ce Roccolo est une manière de tirer les alouettes prises dans un filet. Gourdon de Genouillac était davantage sur la voie des vieux papiers. Ce polygraphe débuta par le vaudeville, se livra ensuite à des travaux sur la noblesse, les ordres de chevalerie et l'héraldique, repassera la nouvelle et encore à une autre forme de battu avec « Comment on tue les femmes ?» chez Faure en 1865. Un sous-titre « Étude de mœurs » vient heureusement tempérer cette ardeur.